Hello, I'm Stefano Rossello from Rustblade Records. Thank you very much, Rivera Podcast, for this great show. And thank you very much for the great feedback that we receive after your show. I hope we can do in future new podcasts.
Rivera Records Collection. L'émission consacrée au support physique.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Rivera Records Collection, un nouvel épisode, comment dire, dégoulinant. Voilà, bonjour mon cher.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien.
Voilà, très bien. Comme d'habitude, chaque semaine, vous avez droit au même refrain, on va essayer de varier un peu les phrases, hein, parce que ça fait un peu répétitif et on ne fait pas de copier-coller chez nous.
Ça va pas du tout.
Ça va pas du tout, ça va pas, sa chérie. Alors, on est là pour parler d'une bande-son et d'un film qui s'appelle donc Cannibal Holocaust, classique des années 80, s'il en est, et film choc et culte et film à scandale, évidemment. Aussi, on y reviendra un peu plus tard. Mm-hmm. On va commencer par parler de la bande-son hein, qui est composée par Riz Ortolani. Voilà, un super vinyle, hein, voilà, couleur olive et chair écrasée.
Voilà.
On a cherché longtemps pour le trouver celui-là, hein, parce qu'il y a d'autres éditions, mais nous on voulait absolument celle-là, qu'on a fait venir de Russie. Voilà, c'était le seul exemplaire qui restait à un prix abordable, parce qu'il faut savoir, on peut le trouver encore hein, sur Discogs et d'autres plateformes, mais à des prix, on n'a même pas envie de le déballer pour le faire tourner, peur de l'abîmer. Alors, que dire de ce vinyle ? Ben, un son parfait, hein, voilà, très très belle remasterisation de la bande-son, qui est distribuée par Death Wars Recording and One Way Static, qui est différente de la version qui est sortie aussi chez Mondo, voilà, Mondo qui avait repris aussi la distribution. Donc cette version, c'est l'édition Deluxe Limited, avec des posters à l'intérieur, hein, ce beau vinyle écrasé splatch, comme on dit.
Avec des belles photos.
Avec des belles photos, voilà, on ne les a pas postées sur Instagram sous peine de censure, bien évidemment.
Oui, ça c'est sûr. Là.
Voilà, donc avec pochette noire, avec le Cannibal Holocaust en argenté et à l'arrière la photo de Riz Ortolani. Alors que dire de la bande son ? Ben complètement à l'opposé du film.
Oui, le romantique.
Voilà, en fait, si on a un peu plus l'impression que si on n'a pas vu le film qu'on écoute la bande son, c'est plus la musique d'un film érotique, hein ? Voilà. Très très belle mélodie, très très belle mélodie, pardon.
Un peu disco par moment.
Mais et puis ce thème de Cannibal Holocaust qui est devenu un des chefs-d'œuvre de la musique du film, on peut le dire, mais complètement à l'opposé du film. Et c'est ça qui fait sa force, c'est que ça renforce ce mal à l'aise du film, de cette musique douce et comment dire triste par rapport à ce qui se passe à l'écran. Alors on va partir un petit peu dans la biographie de Monsieur Riz Ortolani, si tu veux bien.
Avec plaisir.
T'es sûr?
Bon, moi, j'ai pas peur. Ça.
Bref, juste le temps que je retrouve, bien évidemment, ma petite page, mes petites notes, ce qui n'est pas gagné. Voilà. Donc, Monsieur Riz Ortolani, Rizero, qui s'appelle en réalité Riziero Ortolani, et qui est crédité aussi parfois sous le nom de Roger Higgins ou de Riz Ortolani, voilà, est un compositeur de musique de film donc italien qui est né le 25 mars 1926 au cinéma à Pezzaro, mort à Rome le 23 janvier 2014. Il a reçu un Golden Globe de la meilleure chanson originale, 3 rubans d'argent et 4 prix David di Donatello. Alors au début des années de 1950, Ortolani quitte Pesaro pour s'installer à Rome et rencontre le succès en dirigeant un orchestre symphonique jazz. Il compose sa première musique de film pour le cinéma en 1962 sous le pseudo-documentaire de Paolo Cavara et Gattero Giacopetti, Mondo Kane, dont la chanson-titre Mort lui vaut un Grammy et est également nommée aux Oscars. D'autres musiques très célèbres, dont celle de O Conga Che Cielo en 1970 et du terrible Cannibal Holocaust, évidemment, en 1980.
Terrible, c'est qu'à le dire.
Ah oui. Ortolani a composé pour plus de 200 films, dont des westerns spaghetti et européens, comme Les Cavaliers Rouges pour l'Allemagne en 1964 et pour tous les genres. Certaines de ses musiques ont déjà été reprises dans les Kill Bill ou même Django Unchained de Quentin Tarantino, ainsi que dans Drive de Nicolas Winding Refn. Alors hein, voilà, ça a commencé les musiques de films donc dès 1954 et ça s'est terminé. La dernière composition était que je ne me trompe pas, 2013, justement, ben voilà, avec des insertions dans la BO du dernier jour de la colère. dans Django Unchained de Quentin Tarantino. Mm-hmm. Alors je te propose qu'on écoute ce premier extrait avant de revenir plus approfondi sur le film.
Oui, oui.
Voilà, avec le générique d'ouverture qui est devenu un classique. On se l'écoute et on revient juste après. À tout de suite.
Riviera Records Collection. L'émission consacrée au support physique. Riviera Records Collection. L'émission consacrée au support physique.
De retour après cette musique douce qui ne fait absolument pas penser à un film d'horreur, nous sommes bien d'accord.
Pas.
Alors le film c'est quoi? C'est un film Mondo, comme on appelle ça. Voilà, c'est comme on appelait à l'époque. C'est un film avec les cannibales ou qui veut faire passer ça pour un film réalité, ce qui n'est pas forcément le cas. Quoique, on a eu pas mal de problèmes avec ce petit film qui est de Ruggero Deodato. Alors, qui est Ruggero Deodato? Il est né le 7 mai 1939, réalisateur italien, spécialiste du cinéma d'horreur, notamment avec ce film culte. Le film l'a fait connaître dans le monde entier, en particulier aux États-Unis et en France, où il est surnommé Monsieur Cannibal. D'ailleurs, une petite anecdote avant d'aller un peu plus loin dans la biographie, c'est que le film Cannibal, le jeu Cannibal va sortir ce mois de novembre, qui est la suite directe de Cannibal Holocaust. Voilà. Je ne sais pas à quoi peut s'attendre de ce jeu. Je n'ai même pas vu un seul extrait ni une seule bande. J'ai juste vu une bande-annonce qui datait du mois d'avril. Il devrait sortir fin du mois, donc et toujours sous la direction de Ruggero Deodato.
D'accord. Voilà. C'est bien, ça.
Voilà. Donc il est né à Potenza, chef-lieu de la région de Basilicate, et émigre avec sa famille à Rome quand il est un enfant. Il passe sa jeunesse dans la capitale et où les grands studios italiens ont l'habitude de tourner des films. C'est là qu'il entreprend le métier de réalisateur avec Roberto Rossellini et Sergio Corbucci. Il travaille ainsi comme assistant réalisateur sur Le Général della Rovere et Django à la fin des années 1960. Il réalise des comédies thrillers avant de quitter le cinéma pour réaliser des spots publicitaires. En 1976, il retourne au cinéma avec le film ultra-violent Live Like a Cop, Die Like a Man. En 1977, il réalise un film d'aventure se déroulant dans la jungle, Le Dernier Monde Cannibale, qui est considéré comme le premier de la série des Cannibales Holocaust. Ce film marque le renouveau de ses films de cannibales initiés quelques années auparavant par Umberto Lenzi. Car ce que beaucoup pensent, c'est que Cannibal Holocaust est la genèse des films de cannibal, mais non, Umberto Lenzi, a lancé, lui, la mode du film de cannibal, et beaucoup de monde l'oublie. Voilà, d'ailleurs, l'année prochaine, on va être dans une émission, dès que j'aurai pu retrouver la bande-son en vinyle, sur Cannibal Ferox, justement, de Umberto Lenzi, avec une musique assez semblable, on peut le dire.
D'accord.
En 1979, donc, il continue dans le genre du film de cannibale et réalise son film le plus connu, celui-ci, Cannibal Holocaust. Ce film provoque une controverse car la rumeur affirme que les acteurs ont été réellement tués pendant le tournage. Ruggero Deodato doit alors dévoiler les effets spéciaux utilisés. Les acteurs doivent se présenter aux médias. La controverse poursuit à cause des séquences de torture d'animaux. Bref, de grands problèmes judiciaires à cause de ce film. Hein. On a même cru que réellement les acteurs étaient morts parce que dans le contrat du film, ils devaient s'effacer des médias et ne pas se montrer pendant X temps, donc justement pendant la distribution du film, ce qu'il a dû même prouver devant un tribunal. Hein, avec
ça fait parler, c'est bien.
Oui, mais avec les acteurs qui ont dû se présenter au tribunal pour bien prouver qu'ils n'étaient pas morts, ça a été très loin.
Ouais, il n'était pas imaginé que ça allait si loin.
Peut-être pas, non. Mais en tout cas, le film a été vachement interdit un peu partout, hein, avant d'être classé moins 16, parce que bon, bah, y a certains effets qui ont peut-être un peu mal vieilli. Mais ce qui a beaucoup fait couler d'encre, c'est tout ce qui est massacre d'animaux, car ça c'est vrai.
Ça par contre c'est moins...
Ça c'est vrai, tous les films, tous les animaux qu'on le voit dans le film qui sont sacrifiés sont réellement, réellement été tués devant la caméra, et en plus renforcé par la musique justement de Riz Ortolani, ça donne un espèce de malaise, et c'est pas à mettre en tout cas devant tous les yeux, voilà. Et on peut dire que c'est vrai que par rapport aux effets spéciaux, le fait que ce soit si réaliste, et la disparition des acteurs et le style documentaire du film fait qu'on aurait pu vraiment y croire. Hein. En tout cas, c'est un coup. On pourrait peut-être dire que c'est un des premiers buzz du cinéma.
Voilà.
Voilà. Alors, en 1980, il réalise...
Le story pouvait aller se coucher.
Ouais. La maison au fond du parc, qui est interdite pendant 20 ans au Royaume-Uni du fait de sa violence. Par la suite, il tourne des films de tout genre, western giallo, films d'action. Sans rencontrer le même succès, il fait un caméo dans Hostel, chapitre 2, en tant que cannibale mangeant la jambe d'une personne. Eh oui.
Mm-hmm.
À regarder Hostel 2, non, pas longtemps pressé de repérer la séquence. Hein.
Pas de marron, ça.
Alors, donc, il a commencé en 1964 avec La Terreur des Kirghiz, et puis son dernier film date de 2016 avec Ballad in Blood. Voilà. Et Cannibal Holocaust, que l'on peut retrouver maintenant en très très belle édition, en Blu-ray. Hein. Une édition 4K est d'ailleurs prévue dans très peu de temps. Déjà en Blu-ray, c'est pas triste. Mais alors, on ose imaginer en 4K, soit ça va révéler les effets, le trucage peut-être, soit ça va encore accentuer cet effet de malaise et de film malsain, on peut le dire. On repart avec un deuxième extrait, si tu veux bien, avant d'arriver sur la critique de Cannibal Holocaust.
Le disco, là.
Ah non, pas disco, ça sera on terminera avec le disco.
Ah oui.
Voilà, allez, à tout à l'heure.
Riviera Records Collection. L'émission consacrée au support physique.
On est de retour. Alors avant de, justement de partir dans la critique de ce film, on va peut-être donner un petit peu le ton avec le nom des titres de, justement de ce vinyle. Donc en face A, on retrouve Cannibal Holocaust, le main theme, hein, celui que vous avez entendu en première séquence musicale. Ensuite, Adulteress Punishment, hein, la punition de l'adultère, hein, scène très très violente aussi dans le film. Hein, avec, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Le Cameraman's Recreation, ensuite Massacre of the Troop, Love With Fun, Crucified Woman on Side 2, avec Relaxing in the Savannah, Savage Rite, Drinking Coco et Cannibal Holocaust End Titles. Voilà, Drinking Coco, voilà.
On comment va pas...
Drinking Coco.
Voilà. Les
bref.
Coco.
Voilà. Alors, on va partir dans cette petite critique du film. Hein. Mais avant, on revient sur l'histoire du film. Un anthropologue spécialiste des cultures primitives monte une opération de sauvetage en Amazonie afin de retrouver 4 jeunes reporters disparus lors du tournage d'un documentaire. En remontant leurs pistes, il va peu à peu se rendre compte que les indigènes avaient une sérieuse dent contre eux. Calembour, on peut le dire. Il parvient cependant à récupérer les pellicules tournées par l'équipe et rentre à New York pour visionner le film en compagnie de l'équipe chargée de diffusion. Bref, que du bonheur, jusque-là, ça a l'air assez sage.
Oui, ça. Voilà.
Alors, un peu pour schématiser, le film peut être décomposé en 2 parties. La première est très classique, dans la tradition des jungle movies, comme on en voit beaucoup à l'époque. On y voit le professeur partir en exploration dans la jungle et à la recherche de l'équipe de reporters, croiser des cannibales et manger de la viande humaine, etc. etc. Jusque-là, rien de transcendant. Elle réserve bien évidemment ce lot de scènes choc, notamment un viol rituel particulièrement violent. Hein, voilà, Adulteress, le fameux titre. Ensuite, dégustation de cuisine autochtone, si on peut dire. Elle se révèle par contre plus intéressante lors de la seconde vision. En effet, Deodato tisse entre les 2 parties de son film un réseau de références dont la plus évidente demeure le parcours de l'anthropologue, suivant pas à pas celui des reporters. Mais de nombreux autres ponts sont dressés entre les 2 actes que les exégètes se feront un plaisir de relever et qui démontrent surtout que Cannibal Holocaust, contrairement aux apparences, un film extrêmement construit et maîtrisé. Mais alors le film vaut surtout aussi pour sa seconde partie proprement hallucinante, hein, et rompant radicalement avec les codes du genre, car justement ce n'est pas un simple film d'exploitation dont le seul but serait d'apporter aux fans son lot de scènes gore dans une simple volonté de divertissement, mais le support à une véritable réflexion de la fascination exercée sur l'image et une dénonciation virulente de la soif sensationnaliste des médias. Il y a même fort à parier que c'est pour cette raison que le film fut si controversé et non pour la violence même des scènes. Voilà, parce que ça démontre un certain voyeurisme, faut le dire.
Ah bah oui.
Voilà, on le voit avec la directrice de programme qui veut absolument que le film soit montré en prime time pour faire de l'audience jusqu'au moment où elle a pu voir les images elle-même. Et là, on se rend compte qu'elle dit rien, elle quitte la salle de projection, on ne connaît pas la suite. Mais c'est pas grave. Alors, fascination tout d'abord en réduisant l'écart entre le spectateur et ce qu'il voit, en faisant prendre au film la norme d'un documentaire tourné en 16 mm et à l'image très sale. Si la première partie en imposait par le réalisme, le film a été tourné en pleine jungle, en lumière naturelle. La seconde repousse les limites, forçant la conclusion entre réalité et fiction. Ainsi, même si c'était alors une pratique courante dans les films cannibales, les meurtres sont non simulés, d'animaux surtout, contribue ici à rendre encore plus floue cette frontière franchie lorsque les reporters forcent la main au destin en décidant de scénariser quelque peu leur reportage. Voilà. Alors, je te propose qu'on écoute un 3e extrait avant de se retrouver pour la suite de cette petite critique. Suite et fin. À tout de suite.
Thank you.
Riviera Records Collection. L'émission consacrée au support physique.
De retour après cet extrait musical. Alors que dire de plus, on sait bien que au cinéma, quand la violence, elle fascine, on peut dire ça. Elle a toujours fasciné, elle a toujours attiré. Voilà, à partir du moment où il y a un film culte, où on l'a vu pour L'Exorciste en 1974, les gens se ruaient dans les salles malgré qu'il y avait des gens qui s'évanouissaient et qui vomissaient réellement dans des sacs distribués à l'entrée des salles. On peut dire que la violence fascine autant, sinon plus qu'elle paraît réelle lorsqu'elle l'est véritablement. Et c'est précisément en jouant avec l'être et le paraître, en mêlant la violence réelle sur les animaux et simulée sur les humains, et en la présentant de manière fortement complaisante dans ce qui est présenté comme un documentaire, que ce film se trouve être complètement malsain. Deodato joue à fond sur cette conclusion. Il avait ordonné à ses acteurs de disparaître, comme on l'a dit plus tôt, durant un an après le film, avant de les appeler en catastrophe sous la menace de la justice. J'imagine la tête des pauvres qui se retrouvent avec un acte de décès alors qu'ils ne sont pas morts. Tout fut fait pour cultiver la légende. Le résultat est sûrement au-delà des espérances, tellement on a pu dire tout et n'importe quoi sur le film. Accusations de véritables snuff movies principalement, mais aussi des viols sont non simulés. Et il suffit de faire un petit tour sur quelques forums internet pour constater que c'est toujours le cas actuellement, toujours des légendes qui tournent autour de ce film, comme quoi les actrices auraient réellement été violées, qu'ils jouaient les cannibales, bref. On ne saura jamais le fin mot, je pense. Quant à la dénonciation du sensationnalisme des médias et de leur attrait pour cette violence, cela semblera évident à quiconque regarde le film avec un soupçon d'esprit critique, qui ne va pas juste regarder pour comme un bête film d'horreur. Alan et son équipe sont l'exemple même de cette presse en perpétuelle recherche d'extrême et de réalisme cru, quitte à travestir la réalité ou à l'inventer tout simplement si l'image n'est pas assez croustillante. C'est ainsi qu'ils vont mettre le feu à un village pour filmer un soi-disant massacre entre indiens et qu'ils exprimeront leur dégoût à la caméra juste après s'être rincé l'œil devant une femme empalée. C'est dans le même élan voyeuriste qu'ils se filmeront en train de faire la chose devant des indiens rescapés de l'incendie en question, mais brûlés au deuxième et troisième degré. C'est... voilà, on va pas rentrer trop dans les détails, on vous encourage à le regarder si vous l'avez pas vu ou pas. Mais bon, lorsque l'on voit des états de la programmation télé actuelle où se côtoient les reportages chocs sur les deuxièmes intifadas, les bombardements en direct de la télé-réalité, puis la haute réalité les plus butassières, hein, on se dit que ce film était malheureusement prémonitoire. C'est vrai, quand on voit...
C'est un love story sauvage.
Voilà, même à l'heure actuelle, on a droit à un petit message dans les journaux télévisés. Attention, ces scènes peuvent heurter la sensibilité. Mais on ne nous épargne rien, hein, de l'enfant décapité au Bouddha en train de se s'immoler. On ne nous épargne rien dans les actualités actuellement.
Ah oui.
Et c'est qu'il y a du public pour ça, malheureusement. Voilà.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Deodato a fait de Cannibal Holocaust un film anti-film cannibale, si on peut le dire, une sorte de négatif mettant en évidence les travers du genre par une surprenante mise en abîme. On peut être un petit peu audacieux, peut-être que Deodato a reporté sa passion pour le macabre sur Alan, le caméraman, enfin le chef de reportage. Petite parenthèse avant de conclure, hein, de ces hypothèses qui sont toutes plus fumeuses les unes que les autres, afin de mettre en évidence les qualités techniques du film. Le montage et la mise en scène, si à la première vue on l'air un peu anarchique, se trouvent être parfaitement maîtrisés, en témoigne la mort d'Alan face caméra au sens strict. De même que la structure particulière du film, qui est une redoutable efficacité et qui en inspirera beaucoup d'autres, en particulier le plagiat Blair Witch Project. Autrement plus inspiré, on peut citer aussi Cette arrivée près de chez vous.
Riviera Records, collection.
D'accord.
L'émission consacrée au support physique.
Moyen, une production italienne de l'époque, mais on a l'habitude dans ce genre, hein, de production. Et compte tenu des conditions de tournage, ça sort pas trop mal. Par contre, les effets spéciaux, eux, brillent par leur qualité et leur réalisme, à tel point que Deodato fut contraint de refaire certains trucages devant les juges pour leur prouver que ce n'était pas un snuff movie, même au tribunal. Est-ce que tu te rends compte?
Oui.
Le spectacle dans le tribunal, je sais pas, on connaît pas s'il y a des évanouissements ou pas, mais alors ça devait être quelque chose. Bref, en deux mots, Cannibal Holocaust, un film essentiel pour tout amateur qui se respecte, une pierre angulaire du cinéma gore, bien plus riche qu'on ne pourrait le croire en le regardant d'un œil distrait ou voyeur, brouillant habilement les pistes, car si la thèse selon laquelle les civilisés sont des sauvages n'est pas très neuve, la démonstration, en tout cas pour ce film, et la critique acerbe qu'en sont les médias, en est malheureusement la triste réalité, et c'en est une démonstration brillante. Voilà, c'était pour le dernier mot de la fin.
Voilà, bravo.
Voilà, on se quitte avec encore un extrait de cette BO, hein, ce vinyle. Si vous le cherchez, vous pouvez trouver différentes éditions. Si vraiment la musique vous plaît, que vous voulez pas le collector, vous pouvez le trouver en édition rouge, en édition verte, splatter. Ou alors, si vous voulez vraiment cette édition qui est la plus représentative, on peut le dire, du film, vous la trouverez aussi sur Discogs. Mais il faudra mettre le prix. Voilà. On vous dit à la semaine prochaine, on vous revient avec Goblin, hein, avec Claudio Simonetti's Goblin la semaine prochaine, avec avec le dernier album. Voilà.
Tout blanc.
The Devil is Back. Voilà, d'ailleurs, Rust Blood Records, hein, qu'on remercie pour ces petits messages qu'ils nous mettent à chaque début de podcast. Hein, voilà. Ils ont eu très très bon retour de nos analyses de leur vinyle. Ça nous fait bien plaisir. D'ailleurs, on va essayer de les avoir en interview lors d'une prochaine émission, ainsi que M. Claudio Simonetti, pour approfondir un petit peu plus leurs démarches artistiques et aussi leur ligne éditoriale, hein, parce qu'ils sortent beaucoup de bandes-son d'horreur oubliées, et ça c'est très bien.
C'est bien, ça change un peu de...
Ça change, ouais, ouais. Ça change. Et c'est les pressages ont d'autres qualités que chez certaines majors. On ne dira pas lesquelles. Merci de nous avoir suivis. On vous dit à la semaine prochaine. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée ou un bon week-end où vous nous écoutiez. Et à bientôt.
Bonne nuit, bonjour, au revoir.
Ciao.
Riviera Records Collection. L'émission consacrée au support physique.